Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de l'Espace Ménès France, je suis heureux de vous accueillir pour une soirée consacrée à la santé. C'est une tradition dans la maison d'avoir très fréquemment à traiter ce type de problème. Pour preuve, nous venons de lancer une exposition sur la vaccination. Donc ce soir, nous accueillons la manifestation Octobre Rose et la première de trois conférences, les deux suivantes ayant lieu au pôle régional de cancérologie, au CHU. Donc je vais céder la parole aux trois intervenants et puis je prendrai le micro à la fin pour le faire circuler pour le débat qui s'ensuivra et les questions que vous serez amenés à poser. Alors je ne sais pas qui intervient en premier. Monsieur Tourani.
Bien, bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Tourani, je suis responsable du pôle régional de cancérologie qui a ouvert 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Octobre rose, c'est un mois qui est dédié en totalité au cancer du sein. Il faut savoir que dans notre pays, tous les ans, il y a plus de 50 000 femmes qui présentent un cancer du sein. Et tous les ans, il y a environ 10 à 11 000 femmes qui meurent d'un cancer du sein. Alors, si vous rapportez ça au nombre d'accidents de la route et de morts sur la route, c'est 3 ou 4 fois plus que les morts sur la route. On s'intéresse beaucoup aux morts sur la route et j'ai l'impression que nos tutelles s'intéressent beaucoup moins au problème du cancer du sein. Donc, le mois Octobre Rose, c'est pour sensibiliser l'ensemble de la population et l'ensemble des femmes sur le fait que elles peuvent se prendre en charge et elles peuvent faire des choses pour éviter de mourir d'un cancer du sein, parce qu'on meurt d'un cancer du sein, c'est évident. Et la façon d'éviter de mourir d'un cancer du sein, eh bien, c'est de rentrer dans les grandes campagnes de dépistage, les campagnes de dépistage qui existent dans tous les départements, dans toutes les régions. Et on sait maintenant que prendre en charge un cancer du sein quand il est tout petit, on a une probabilité de survie qui est 10 fois, voire 100 fois supérieure à la négligence, c'est-à-dire à la découverte d'un cancer quand il est déjà évolué, qu'il a déjà franchi le sein, qu'il est métastatique. Donc, je pense que ces chiffres sont importants et je pense qu'il est important que vous transmettiez aux personnes de votre entourage, à vos familles, à vos amis, à vos proches et puis à d'autres, que ce n'est pas une rigolade, le cancer du sein, ce n'est pas une rigolade, le dépistage, s'il est fait, c'est qu'il a un intérêt et qu'il a démontré qu'on diminuait le nombre de morts par cette maladie. Alors la grande question est, mais pourquoi il y a une tranche d'âge pour le dépistage? Alors il y a une tranche d'âge pour le dépistage parce que, avant de proposer à la population un dépistage, il y a tout de même eu des études qui ont été faites pour vérifier que ce dépistage, disons, diminuait la mortalité. Et donc, la tranche d'âge dans laquelle on a trouvé qu'il y avait une franche diminution et une façon significative la mortalité, c'est celle qui est utilisée chez qui on propose le dépistage. Je mets à l'écart toutes les personnes qui peuvent être plus exposées que d'autres, les personnes qui ont des anomalies génétiques, les personnes qui ont dans leur famille, leur mère, leur tante, qui ont déjà eu un cancer du sein, celles-là sont davantage exposées au risque. Le risque peut être multiplié par 2, 3, voire 4. Et donc, celles-ci ne rentrent pas dans un réel programme de dépistage. Elles sont prises en charge de façon à part, mais il faut déjà qu'elles le sachent, qu'elles le reconnaissent et qu'elles viennent nous voir. Et puis, il y a les femmes qui souhaitent, et c'est tout à fait licite, bénéficier d'un dépistage en dehors de la tranche d'âge, en particulier pour la tranche d'âge plus jeune. Et moi, je trouve ça tout à fait normal et je n'ai pas à m'opposer à ce que des gens préfèrent faire une mammographie tous les 2 ans alors qu'ils ne sont pas dans la tranche d'âge. Alors après, financièrement, le problème est différent. Mais je veux dire que quand on voit le coût d'un dépistage qui est de 66 euros, et que la prise en charge d'un traitement d'un cancer du sein, entre la chirurgie, la radiothérapie et tous les traitements médicaux, qui va en gros de 50 000 à 500 000 euros, je pense qu'il n'y a pas photo. Si on arrive à faire, on est tout de même des citoyens, si on arrive à faire des économies à notre société, si on arrive à ce que cet argent soit utilisé autrement, à bon escient, je l'espère, eh bien, je pense que d'une part, on évitera de mourir d'un cancer du sein et que d'autre part, on sera porté en citoyen. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Caroline qui va vous donner plus de chiffres que je viens de vous donner. Et puis après, le docteur Stefanini qui est sur le terrain, c'est-à-dire qui au quotidien, bien dans son cabinet, a des questions et, disons, gère aussi le dépistage parce que le dépistage passe essentiellement par le médecin traitant qui doit solliciter les femmes pour rentrer dans les campagnes de dépistage. Il faut savoir que plus on descend dans le sud, en Europe, moins on fait de dépistage, il faut être clair. On est plutôt latin. Quand on va dans les pays nordiques, en Scandinavie, le dépistage, il y a bien longtemps que ça existe et il y a bien longtemps que tout ça est en place et que personne ne refuse le dépistage. On ne va pas être non plus, disons, on ne va pas légiférer sur le dépistage. Certains pays ont le vote obligatoire. Quand on ne vote pas, on a une amende. Je pense qu'en France, on n'en est pas là. Mais je pense qu'on doit être citoyen et on doit être conscient de ce que l'on fait et de ce que l'on coûte à une société.
Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Caroline Tournoux-Facon. Je suis le médecin coordinateur de DocVie, c'est-à-dire la structure de gestion qui coordonne le dépistage organisé dans le département de la Vienne. Alors, la présentation que je vais vous faire, elle déborde un petit peu mon champ d'action habituel puisqu'on m'a demandé de parler des dépistages. Or, moi, au jour le jour, je ne pratique que le dépistage organisé du cancer du sein. Donc, Monsieur Tourani, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des soucis dans ce que j'ai écrit sur ces diapositives. Alors, juste d'un point de vue épidémiologique, quelques petits rappels, mais qui ont déjà été faits en partie par Monsieur Tourani. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme, avec un âge moyen au diagnostic de 61 ans. C'est important d'avoir ce chiffre en tête. C'est une maladie fréquente et grave, Monsieur Tourani l'a dit. Globalement, la prise en charge est correcte. On a une survie à 5 ans de plus de 85%. On verra. Donc ça, c'est tout stade confondu. On verra un petit peu dans le détail après. Un point positif dans le cadre du dépistage, enfin, dans le cadre du cancer du sein, c'est que si effectivement on a une incidence qui a tendance un peu à augmenter, vous voyez plus de 2,4% entre 80 et 2005 à peu près, on a une mortalité à l'inverse qui diminue. Alors, les raisons de ces augmentations et de ces diminutions, elles sont multiples et la part de chacune d'elles est un peu difficile à déterminer. C'est-à-dire que l'incidence qui augmente, est-ce que ce sont des facteurs environnementaux? Est-ce que c'est parce qu'on les dépiste mieux? Est-ce qu'on les dépiste plus tôt et que du coup, on est un peu dans du surdiagnostic quelque part? Donc, on en détecte. Si on cherche, on trouve forcément, donc l'incidence augmente. Par contre, on s'aperçoit aussi que la mortalité diminue. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est parce que c'est grâce au dépistage, on les prend en charge plus tôt? Donc, le pronostic, les traitements sont moins lourds, le pronostic est meilleur. Est-ce que c'est l'évolution thérapeutique aussi qui rentre en jeu? C'est forcément un petit peu de tout ça qui fait qu'effectivement, même si on a de plus en plus de cas de cancer, on meurt un peu moins du cancer tous les jours. Alors, le cancer du sein est lié à certains facteurs dits de risque, dont le premier, finalement, c'est l'âge. C'est bête à dire, mais il faut bien s'en souvenir aussi. L'incidence du cancer du sein augmente avec l'âge. Et donc, on observe à peu près en moyenne moins de 5% des cancers avant 40 ans. Donc ça aussi, c'est important de s'en souvenir. Et plus de 70% des cancers après 50 ans. Donc ça va expliquer aussi le choix de la tranche d'âge pour un programme national. Ensuite, dans les autres facteurs de risque, vous avez des facteurs liés à la reproduction, à la fécondité. Donc le fait de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir eu une grossesse tardive après 40 ans, une puberté précoce, donc des règles avant 12 ans ou une ménopause tardive après 55 ans, c'est aussi un facteur de risque. Les femmes qui ont déjà présenté ce qu'on appelle des mastopathies bénignes, alors bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, ça entraîne aussi un sur-risque de développer un cancer du sein. L'alimentation, c'est un autre facteur de risque, en particulier l'alimentation riche en sucre, graisse animale, en alcool, et donc l'obésité. Le traitement hormonal substitutif pris sur une longue période. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont démontré maintenant qu'effectivement, il ne fallait plus le donner de façon systématique, mais le réserver à certaines femmes qui, effectivement, avaient des troubles importants de la ménopause. Et puis, vous avez aussi, comme facteur de risque, l'hérédité. Donc vous avez des familles qui ont plusieurs cas de cancer sur plusieurs générations. Donc on parle là vraiment de génération, enfin de 2 ou 3 générations et puis de multiples cas de cancer. Donc là, ça représente à peu près 5 à 10% des cancers. A contrario, c'est le pendant, les facteurs protecteurs, ce sont les grossesses avant 30 ans, l'allaitement et l'activité physique qui diminuent l'obésité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des facteurs de risque, hein, ce ne sont pas des facteurs causaux. Donc, ce n'est pas parce que vous rentrez dans l'une de ces catégories-là que forcément vous allez avoir un cancer. Et ce n'est pas parce que vous n'avez aucun de ces facteurs-là que vous ne développerez pas de cancer. Donc, c'est simplement, il a été observé dans de nombreuses études que les femmes qui présentent ces caractéristiques-là avaient plus de risques de développer des cancers que celles qui n'avaient pas ces facteurs-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez ces facteurs-là que vous aurez un cancer et ce n'est pas parce que vous n'avez aucun de ces facteurs-là que vous n'aurez pas de cancer. Alors, le dépistage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, tout d'abord, qu'on se mette bien d'accord sur la définition d'un dépistage. Un dépistage, c'est quoi ? Ça consiste à détecter un cancer avant qu'il ne soit palpable ou qu'il ne se traduise par un signe anormal comme une modification de la peau, du mamelon ou une sensation de boule dans le sein. Alors, c'est vraiment important de bien faire la différence entre dépistage et diagnostic, parce que si vous allez chez votre médecin et après chez votre radiologue en disant « je me suis senti quelque chose, il faut que je fasse une mammographie », on n'est plus dans le cadre du dépistage, on est dans le cadre du diagnostic. On essaie de déterminer ce que c'est que cette boule, qu'est-ce que c'est que cette modification de la peau qui est apparue récemment, etc. Donc, le dépistage, ça s'adresse à des gens qui ne sentent rien. Et l'objectif, c'est de détecter tôt les cancers pour mieux les traiter en proposant des traitements moins lourds et qui offrent plus de chances de guérison. Donc, détecter parmi des personnes a priori non malades, celles qui présentent des anomalies susceptibles d'être cancéreuses ou d'évoluer en cancer afin de les traiter rapidement. Et c'est vrai que c'est tout un peu l'enjeu de notre travail, c'est de motiver des gens qui ne se sentent pas malades à aller passer un examen. Un examen clinique, un examen radiologique. Parce qu'effectivement, elles ne se sentent pas malades et donc souvent elles nous disent « mais laissez-moi tranquille, je ne demande rien, vous allez me donner le cancer ». Non, on ne donne pas le cancer on n'attrape pas le cancer en se faisant dépister. Vous êtes porteur d'un cancer peut-être. Le dépistage vous permet d'être fixé et de savoir si effectivement vous avez des cellules cancéreuses dans les seins avant même que vous n'ayez senti quelque chose au niveau du sein ou ailleurs. Et c'est vraiment un enjeu important, puisque si on détaille la survie à 5 ans dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, on peut noter que quand la tumeur fait moins de 1 cm, 1 cm, c'est la taille en général où elle devient palpable. Donc si elle fait moins de 1 cm, on a des survies qui tournent autour de, enfin, qui sont supérieures à 90%. Si on attend, comme le disait M. Tourani, et que la tumeur augmente et métastase éventuellement, mais par exemple pour des tumeurs de plus de 5 cm, on a des chiffres qui descendent à 63% de survie. Donc vous voyez que plus on attend, plus on a des pronostics qui peuvent être vraiment défavorables. Alors évidemment, ce n'est pas des chiffres absolus, ça dépend du type histologique de votre tumeur, ça dépend de l'envahissement, etc. Ce sont des moyennes. Donc, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. L'idée, c'est quand même une petite tumeur qui n'est même pas palpable, qui se détecte à la radiologie. Le plus souvent, elle est de meilleur pronostic qu'une grosse tumeur que l'on découvre à un stade évolué. Alors, pourquoi le titre de la présentation, c'était « Quel dépistage au pluriel ?» Parce qu'effectivement, toutes les femmes ne sont pas exposées au même risque de cancer. Et en particulier, on va identifier 3 groupes de femmes à risque. Et pour chacun de ces 3 groupes, vous avez une préconisation de dépistage qui est différente. Alors, le premier groupe des femmes qu'on peut identifier, ce sont celles qu'on appelle des femmes à risque très élevées. Le deuxième, c'est les femmes à risque intermédiaire ou élevé. Et pour ces 2 catégories de femmes, c'est un suivi spécifique pour lequel le dépistage organisé du cancer du sein dont on coordonne à Docville la mise en place, ne sont pas concernés. Donc, femmes à risque très élevé, femmes à risque intermédiaire et élevé, suivi spécifique hors champ du dépistage organisé. En revanche, les femmes qui sont sans risque particulier et qui ont entre 50 et 74 ans, alors elles sont éligibles pour le dépistage organisé. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces 3 groupes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme à risque très élevé, c'est-à-dire qui présente plus de 40% de risque de développer un cancer au cours de sa vie. Ce sont les femmes pour lesquelles on a détecté, on a identifié de façon certaine une mutation d'un gène que l'on appelle BRCA1 ou BRCA2. Donc ce sont vraiment des catégories de femmes très particulières pour lesquelles une mutation génétique a été identifiée. Alors cette mutation génétique, tout le monde ne peut pas la rechercher. Qu'est-ce qui doit vous faire penser que peut-être dans votre famille, il y a eu une mutation génétique ? Donc cette mutation génétique, vous devez la rechercher si vous avez en particulier au moins 3-4 cancers du sein, mais également de l'ovaire ou du côlon. L'un de ces trois cancers, donc 3-4 cancers parmi ces trois types de cancers, chez des personnes apparentées au premier ou au deuxième degré et dans la même branche parentale. Donc si vous avez votre mère et puis une grand-mère paternelle, par exemple, on n'est plus dans la même branche parentale, elle ne se cumule pas dans ce calcul-là. Ou alors, si vous avez seulement 2-4 cancers, mais des 4 cancers un peu atypiques, en ce sens que ce sont, donc cancer ou ovaire aussi, ce sont des femmes qui ont des parents du premier degré, et pour ces personnes du premier degré, c'était des cancers de survenue très précoce, donc souvent avant 40 ans, avec une atteinte bilatérale, c'est-à-dire des deux seins, une atteinte multifocale, donc plusieurs foyers de cancer dans le même sein, ou alors plusieurs cas de cancer chez une même personne, c'est-à-dire que vous avez une mère qui a eu un cancer du sein et un cancer de l'ovaire. Vous avez une mère qui a eu un cancer du sein avant 40 ans, et puis une grand-mère qui a eu un cancer du sein aussi, enfin la mère de votre mère, toujours dans la même lignée. D'accord ? Donc si vous avez ces antécédents-là dans votre famille, sur votre arbre généalogique, il vous est conseillé de consulter votre médecin généraliste ou votre gynécologue pour voir si effectivement vous ne pouvez pas bénéficier d'une consultation oncogénétique pour faire cette recherche de mutation et voir si vous êtes dans cette catégorie des femmes à risque très élevé. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, vous avez un suivi spécifique. Ce suivi spécifique, c'est quoi ? Donc, encore une fois, si on a détecté une mutation chez vous et dans votre famille, c'est un suivi clinique biannuel à partir de 20 ans, un suivi radiologique annuel à partir de 30 ans ou 5 ans avant le premier cas de cancer du sein de la famille. Et ce suivi radiologique comprend une mammographie bilatérale, une échographie mammaire, une IRM mammaire et une échographie pelvienne plus un dosage de marqueurs tumoraux du cancer de l'ovaire, puisque ce sont des familles qui sont à risque de cancer du sein ou de l'ovaire. D'accord ? Donc vous voyez, c'est un suivi assez lourd, mais qui est vraiment réservé aux femmes pour lesquelles il y a une mutation qui a été détectée dans la famille. Alors, les patientes à risque intermédiaire ou élevé, c'est celles qui ont autour de 25% de risque de développer un cancer au cours de leur vie. Alors, ce sont des femmes qui ont soit les antécédents de lésions dont je vous parlais tout à l'heure, lésions hyperplasiques atypiques ou carcinome lobulaire in situ, ou alors qui ont les antécédents familiaux importants, un peu comme ceux qu'on a vus sur la diapositive précédente, mais pour lesquels la mutation génétique n'a pas été identifiée. Vous avez des familles comme ça, où vous avez plusieurs cas de cancer, ça ne rentre pas exactement dans les mêmes cases que précédemment, et puis surtout, il n'y a pas eu de mutation qui a été identifiée. Ce n'est pas une mutation BRCA1 ou 2, mais il y a quand même un terrain visiblement familial, puisque vous avez au moins 3-4 cancers ou des cancers graves, atypiques, etc. dans la famille. Et à ce moment-là, pour ces femmes-là, il est préconisé au minimum un examen clinique et une mammographie annuelle. Donc, le troisième groupe de femmes, ce sont les femmes sans risque particulier, c'est-à-dire celles qui ne rentrent pas dans l'une des deux catégories précédentes. D'accord ? Et à ce moment-là, pour ces femmes-là, on va faire une prise en charge qui va dépendre de l'âge. Donc, avant 40 ans, il n'est pas préconisé d'examen de dépistage. Entre 40 et 50 ans, comme le disait Monsieur Tourani, les femmes effectivement peuvent commencer à se poser la question de savoir si elles veulent se faire suivre ou pas. Donc parlez-en avec votre médecin généraliste, votre gynécologue, savoir si effectivement il serait intéressant pour vous de commencer à faire des mammographies. Et à ce moment-là, ce qui est préconisé, c'est un examen clinique régulier et une mammographie tous les 2 ans. et éventuellement une échographie qui s'associe à la mammographie, parce que souvent ces femmes entre 40 et 50 ans ont des seins assez denses, et du coup la mammographie est de moins bonne qualité, et donc souvent les radiologues complètent la mammographie par une échographie. Alors qu'en avançant avec l'âge, les seins deviennent un peu plus graisseux, et donc l'échographie est moins souvent associée à la mammographie. Et c'est pour ça que parfois, vous avez des femmes qui nous disent « mais je ne comprends pas, avant, moi, quand je faisais mes mammographies, j'avais toujours une échographie, et puis maintenant, on ne m'en fait plus. » Je dis « mais oui, mais vous êtes plus âgée, vos seins, ils ont un peu changé, et donc du coup, l'échographie, elle n'est plus aussi nécessaire qu'auparavant, parce que la mammographie devient plus performante quand on a avec l'âge, parce que les seins sont de plus en plus graisseux. » Alors, si vous avez plus de 50 ans, il faut penser de façon systématique au dépistage organisé. En fait, vous avez la possibilité, effectivement, de continuer des mammographies comme vous aviez éventuellement pris l'habitude auparavant, ou de commencer ces mammographies à 50 ans et de ne pas participer au programme. Ce programme de dépistage organisé, il n'est pas obligatoire. Mais très honnêtement, et ce n'est pas parce que je le coordonne dans le département, c'est une chance d'avoir ce dépistage, ce programme national en France. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quel est l'avantage de ce dépistage organisé par rapport au dépistage individuel. Et donc, pourquoi, à partir de 50 ans, si vous faites une mammographie, demandez toujours à participer au programme national de dépistage organisé. Donc, ce programme, il s'adresse aux femmes à risque faible, donc entre 50 et 74 ans. Alors pourquoi il a été décidé de mettre en place un programme national pour le cancer du sein ? En fait, l'OMS a édité des critères pour définir pour tel ou tel cancer, est-ce que ça valait la peine ou est-ce que ça vaut le coup de mettre en place un programme national ? Et la conclusion, c'était que ben voilà, pour le sein, comme pour le côlon, oui, c'est intéressant, ça, c'est un bon candidat, entre guillemets, au programme national. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un problème majeur de santé publique, on l'a vu précédemment, Monsieur Tourani l'a rappelé en introduction. On a une bonne connaissance de ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire, on sait que c'est une tumeur qui évolue en général très lentement, qu'il faut en gros 10 ans entre la naissance d'une cellule tumorale et une tumeur qui devienne palpable, donc qu'il fasse au moins 1 cm. Et on sait qu'on a à peu près 7-8 ans pour qu'elle devienne visible à la radiologie, enfin à la mammographie, donc qu'elle atteigne une taille d'environ 5 mm, même si maintenant, avec les innovations technologiques, on arrive même à la mammographie à détecter des tumeurs encore plus petites. Mais ce qui fait que globalement, si vous voulez, si vous faites le différentiel entre le moment où elle est visible à la mammographie et le moment où elle devient cliniquement palpable, on a une période de 2-3 ans pendant laquelle la mammographie permet d'identifier une tumeur non palpable. D'accord ? Donc, vous avez en général un délai de 2-3 ans comme ça, où la tumeur, elle existe, vous l'avez dans votre sein, elle est radiologiquement visible, mais vous ne la sentez pas encore, parce qu'elle est encore trop petite. Ensuite, donc, vous avez un outil diagnostique, la mammographie, qui vous permet de faire un diagnostic précoce. Donc, c'est intéressant. Et en plus, vous avez la possibilité de proposer des traitements efficaces une fois que vous avez fait le diagnostic. Donc, le test de dépistage est efficace, puisque ce qu'on appelle les performances de la mammographie sur cette tranche d'âge sont très bonnes. Vous avez une bonne acceptabilité du test par la population. Alors, généralement, on nous dit la mammographie, c'est pas agréable, ça fait mal, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme... Bon, c'est personne dépendant, c'est manipulateur radio dépendant, c'est éventuellement appareil dépendant aussi. Il y a quand même aussi des innovations sur des constructeurs de mammographes qui font que les appareils sont de plus en plus ergonomiques. Voilà, la plaque sur laquelle vous posez le sein, etc., est de plus en plus confortable. Donc, effectivement, on est obligé toujours de faire une compression du sein. Mais d'un autre côté, ce n'est pas très invasif non plus et c'est une fois tous les 2 ans. Alors ensuite, vous avez une accessibilité des moyens pour le dépistage et pour le traitement qui, sur le territoire français, sont corrects. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de faire 300 km pour passer votre mammographie en général et pour être pris en charge non plus. Vous avez un rythme des tests qui a pu être déterminé justement parce que à cause de l'histoire de la maladie que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous avez des risques qui sont acceptables, c'est-à-dire que la mammographie, oui, ça irradie, mais ça irradie tellement peu que par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, c'est vraiment négligeable. Et puis vous avez un coût économique du programme qui est compensé par des avantages attendus. D'accord ? Comme me disait Monsieur Tourani, il vaut mieux faire un dépistage et prendre en charge une tumeur petite avec un traitement peu lourd que d'attendre que ce soit évolué et d'avoir des traitements qui soient très très lourds. Alors pourquoi on a choisi cette tranche d'âge de 50 à 74 ans ? Premièrement, vous avez la majorité des cancers qui surviennent dans cette tranche d'âge. Donc effectivement, quand on met en place un programme, on peut pas ne pas penser effectivement on peut pas ne pas se poser la question de savoir est-ce que je vais vraiment être très efficace. Et effectivement, c'est sur cette tranche d'âge où j'ai le plus de cancers que je suis le plus efficace puisque je vais en détecter le plus et que pour une même somme donnée, je vais en détecter beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on se restreint à cette tranche d'âge-là. Là, donc, c'est 69 ans. Je vous rappelle, en France, on va jusqu'à 74 ans. Mais en Belgique, par exemple, il s'arrête à 70 ans. Et puis aussi, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les femmes avant 50 ans, elles ont des seins denses. Et les performances du test de dépistage, la mammographie, sont moindres avant 50 ans. C'est d'ailleurs pour ça que souvent elle est couplée à l'échographie. Mais donc on a un test de dépistage qui, avant 50 ans, ne serait pas très très performant. Alors il ne serait pas très performant. En plus, on aurait moins de cancers que sur cette tranche d'âge-là. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. On est dans un programme national. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Donc on choisit de le faire pour 50-74 ans. Alors comment ça se passe ce programme national ? C'est quoi ? C'est un programme qui suit un cahier des charges très strict, publié au journal officiel pour la première fois en 2001 et puis qui est régulièrement mis à jour. La dernière mise à jour datant de 2008. C'est un programme qui est coordonné au niveau national par l'Institut national du cancer et l'Institut national de veille sanitaire. Et donc, vous avez une coordination départementale, un relais départemental, via des structures de gestion, donc comme DOCVI, qui s'appuient sur les structures radiologiques existantes. Donc, on n'a pas un centre de dépistage, d'accord ? C'est une coordination par une structure de gestion qui travaille avec les centres de radiologie qui existaient déjà et qui font habituellement les autres examens de radiologie. Donc, pour le département de la Vienne, la structure de gestion, c'est DOCVI. DOCVI, c'est l'acronyme de dépistage organisé des cancers dans la Vienne. C'est une association de loi 1901 avec des membres qui sont issus de l'assurance maladie, donc CPAM, MSA, RSI, qui sont des représentants de l'État avec des représentants de l'Agence régionale de santé, des représentants de la Ligue contre le cancer, le Conseil général et la Mutualité française Vienne. Donc, DOCVI, ce n'est pas l'assurance maladie. Vous n'avez pas Amélie et DOCVI, même si ça sonne pareil. DOCVI, c'est une association complètement indépendante de l'assurance, enfin complètement indépendante, qui n'est pas l'assurance maladie, mais qui est composée de membres, parce que c'est une association, de membres dont certains membres sont issus de l'assurance maladie. D'accord ? Donc, on n'est pas un service de l'assurance maladie. On est vraiment une structure à part. Donc, DOCVI a été créé en 2002. Et est chargé de la gestion et de la promotion du dépistage du cancer du sein depuis 2003. Et depuis 2008, on coordonne également le dépistage organisé du cancer du côlon. Alors, le rôle, en gros, c'est quoi de la structure de gestion ? C'est de travailler avec les professionnels de santé, donc les médecins généralistes, les gynécologues, les radiologues, les gastro-entérologues. Donc tous les professionnels de santé qui sont concernés de près ou de loin par le dépistage organisé du cancer du sein ou du cancer du côlon. Sensibiliser, c'est ce que je fais ce soir, la population, les femmes, le grand public, pour les informer sur le rôle de la structure, la tranche d'âge, les avantages du dépistage organisé, etc. C'est gérer globalement tout ce qui est invitation, relance, suivi, etc. des femmes qui participent à la campagne, c'est récupérer tous les résultats des tests, parce qu'après, on envoie l'ensemble des résultats à l'Institut national de veille sanitaire, qui réalise annuellement une évaluation nationale. donc qui récupère les données de tous les départements et ainsi publie des résultats nationaux sur l'ensemble des départements pour savoir si effectivement, dans le cadre du dépistage organisé, on détecte bien les cancers, on les détecte bien plus tôt, quel est le bénéfice de la campagne. Alors concrètement pour vous, comment ça se passe? Vous êtes une femme entre 50 et 75, et 74 ans, vous êtes affiliée ou vous résidez dans le département de la Vienne. À ce moment-là, de façon automatique, vous allez recevoir tous les 2 ans de la part de DocVie une invitation à participer. Donc les invitations, vous les avez peut-être déjà vues, elles se présentent un petit peu comme ça, à participer au dépistage. Et alors à titre d'information, donc dans la Vienne, ce sont à peu près 58 000 femmes qui sont concernées. On les invite tous les 2 ans. Du coup, chaque année, on en invite un peu moins de 30 000. Et sur les 30 000 femmes qu'on a invitées en 2010, on en a 17 620 qui ont participé l'année dernière au dépistage organisé. C'est-à-dire, ça fait à peu près un taux de 57%. Alors, c'est pas terrible, entre guillemets, parce que l'objectif national, c'est 70%. Mais c'est un peu mieux que la moyenne nationale, qui est de 52%. Avec l'invitation, on joint une carte avec la liste des radiologues de la Vienne. Donc cette liste, elle vous permet de prendre rendez-vous chez le radiologue de votre choix. C'est vous qui prenez le rendez-vous, c'est pas DocVie. Chez le radiologue, vous allez bénéficier d'un examen clinique des seins et d'une mammographie. C'est l'examen clinique et la mammographie qui constituent l'examen de dépistage au sens propre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ce radiologue-là que vous venez de rencontrer, qui vous a fait l'examen clinique des seins et cette première mammographie, on l'appelle le premier lecteur. Il va donc faire une première interprétation de vos clichés. Si aucune anomalie n'est détectée, à ce moment-là, vous ne repartez pas avec vos clichés. Vos clichés nous sont adressés à la structure de gestion, à DocVie, pour une deuxième lecture par un second radiologue expert. D'accord. Donc vous avez le premier radiologue chez lequel vous venez de prendre rendez-vous qui a fait déjà une première interprétation. Et vous avez, si cette première interprétation ne trouve rien, systématiquement une deuxième lecture par un deuxième radiologue dit expert, puisque par exemple vous avez 32 radiologues dans la Vienne, vous n'en avez plus que 8 qui font la deuxième lecture, et donc 8 qui se partagent les 17 000 mammographies des femmes qui ont vu. Donc au bout d'un moment, ils commencent à en voir quand même pas mal, donc ils deviennent ce qu'on peut appeler quand même un peu experts, et ils arrivent comme ça à détecter des cancers qui sont passés inaperçus au moment de la première lecture. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2010 dans la Vienne, ce sont comme ça 7% des cancers détectés dans le cadre de la campagne qui ont été détectés en deuxième lecture. Ce qui est quand même pas négligeable. À l'inverse, si le premier lecteur détecte une anomalie, à ce moment-là, on ne va pas retarder la prise en charge, on ne va pas remettre en question son interprétation, et vous repartez avec vos clichés et vous entrez dans un parcours de soins ou de prise en charge, d'examen complémentaire, sans avoir de deuxième lecture, puisque la deuxième lecture, elle n'est là que pour rattraper, entre guillemets, des cancers éventuellement passés inaperçus auprès du premier lecteur. D'accord ? La deuxième lecture, elle n'est pas là pour négativer une première mammographie positive. On ne va pas prendre le risque de négativer à tort des cancers. D'accord ? Donc, la mammographie et l'examen clinique qui vous sont faits par le premier radiologue sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. En revanche, si vous avez des examens complémentaires, une échographie, une IRM, un prélèvement anatomopathologique, à ce moment-là, ce n'est plus pris en charge à 100%, c'est pris en charge dans les conditions habituelles, c'est-à-dire 70% par l'assurance maladie, et si vous avez une complémentaire, le reste est pris en charge par votre complémentaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Si je veux faire une synthèse de ce que je vous ai présenté avant, sous deux grosses questions, voilà, je ne me sens pas malade, pourquoi je me ferais dépister déjà? Pourquoi je ferais l'effort alors que je sens rien d'aller chez un radiologue ou chez un médecin me faire examiner, ensuite chez un radiologue pour passer une mammographie? Parce que lorsque le cancer du sein est détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Donc, même si vous ne vous sentez rien, vous êtes peut-être, même si vous vous sentez bien et que vous ne sentez rien, vous êtes peut-être porteur d'une tumeur qui n'est pas encore palpable et vous avez tout intérêt à la détecter tôt plutôt que d'attendre et donc de réaliser cet examen de dépistage. Et comme le dit cette dame, me faire dépister, c'est mettre toutes les chances de mon côté pour rester en bonne santé, parce qu'encore une fois, un cancer pris tôt peut être guéri plus facilement avec un traitement moins lourd, et il est souvent de meilleur pronostic. Alors, je suis déjà suivie par mon médecin ou mon gynécologue, alors pourquoi participer au dépistage organisé ? Voilà, c'est typiquement les réflexions qu'on a de femmes qui ont fait des mammographies avant 50 ans et puis qui ne voient pas pourquoi elles changeraient, pourquoi elles intégreraient ce programme organisé de dépistage. Alors, si vous avez suivi, si ça a été clair ce que je vous ai dit, voilà, on peut voir, il y a trois arguments. Le principal, vraiment, c'est que seul le dépistage organisé permet une deuxième lecture. Si vous ne demandez pas à participer au programme de dépistage ou si vous n'allez pas chez votre radiologue avec la prise en charge qu'on vous a envoyée avec l'invitation, vous ne bénéficierez pas de cette deuxième lecture. Vous repartirez avec vos clichés et vous n'aurez pas de deuxième lecture. Or, encore une fois, en 2010, près de 7% des cancers détectés dans le cadre de la campagne l'ont été grâce à la deuxième lecture. Donc, il y a vraiment un bénéfice à participer au programme pour pouvoir bénéficier de cette deuxième lecture. Le deuxième argument, c'est que vous recevrez automatiquement une invitation à votre domicile. Et du coup, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Mince, ça fait combien de temps, depuis combien de temps que je n'ai pas fait ma mammo, etc. Hop, rapide. Vous allez avoir à domicile un petit courrier qui va vous dire il est temps de prendre rendez-vous chez votre radiologue. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Ça fait déjà 2 ans que vous avez passé la dernière mammographie. Et enfin, vous avez un gage de qualité aussi, parce que depuis la mise en place du programme de dépistage organisé, les radiologues et leur matériel sont contrôlés de façon très stricte. Donc les radiologues qui participent à la campagne s'engagent à réaliser plus de 500 mammographies par an dans leur activité et acceptent de soumettre leur matériel à des contrôles qualité externes, les contrôleurs sont mandatés par l'AFSAPS. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'un radiologue maintenant, depuis que le programme national existe, ne peut plus faire de mammographie s'il n'a pas signé de convention avec nous ou avec l'assurance maladie pour réaliser des mammographies de dépistage. Donc, le radiologue que vous aviez l'habitude de voir quand vous aviez entre 40 et 49 ans, c'est exactement le même que vous pourrez continuer à voir après 50 ans, puisque, encore une fois, s'il fait des mammographies, c'est qu'il a signé une convention pour le dépistage organisé, et donc forcément, il peut vous inclure dans le programme de dépistage organisé. Voilà, donc je vais passer, sauf si vous avez des questions, peut-être à la fin, je ne sais pas, ou à la fin peut-être, ou quoi.
Avez-vous des questions ? Comme d'habitude, je vais en lancer une, comme ça fera revenir le reste. Dans les facteurs de risque, vous n'avez pas mis le tabac. Est-ce qu'on considère que ça, il n'y a pas d'incidence sur le cancer du sein ?
Le tabac, c'est un autre problème. Non, je ne pense pas que le tabac soit un facteur déterminant du cancer du sein, mais puisque vous posez la question... Il faut savoir que si le tabac n'existait plus, il y aurait 50% de cancer en moins. Entre le cancer de la gorge, entre le cancer du poumon, entre le cancer du rein, entre le cancer de la vessie et d'autres, on aurait la moitié de cancer en moins. Donc c'est encore une problématique que l'on peut se poser dans le domaine de la santé publique. Est-ce que ça ne serait pas moins coûteux d'arrêter le tabac ? Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Que de traiter des patients à raison de 10 000 ou 15 000 euros par mois. Voilà, c'est une bonne question. Non. Dans le cancer du sein, on ne peut pas dire que le tabac intervient. Puisque j'ai pris la parole, c'est vrai que ce qui a été dit est important. Il est important de, disons, insister sur l'importance de ce dépistage organisé avec cette double lecture. Cette double lecture vous ramasse à peu près 7% de cancers qui seraient passés inaperçus. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Je pense que les autres éléments que Caroline n'a pas abordés ce sont des éléments qui sont des éléments culturels qui font que les femmes sont freinées par le dépistage organisé. Quand je vois le taux de réponse aux invitations, je suis un peu effaré tout de même. Moi, je suis un peu effaré de dire, je ne sais pas, sur 50, combien vous avez, combien sur 30 000, il y en a 17, ça fait quoi? Ça fait 57%. On sait que la rentabilité du dépistage, quand elle a été évaluée, c'est 70-80% de réponses qu'il faudrait avoir pour au moins 70%. Alors pourquoi les femmes refusent? Je ne sais pas. Je pense que c'est culturel, je pense que ce n'est pas dans les mœurs. Je pense aussi que le fait de ne pas prendre soi-même son petit rendez-vous auprès de son petit radiologue qui va vous discuter avec vous, qui va être gentil avec vous, intervient aussi. Bon, je trouve ça un peu triste. On ne se sent pas responsable quand on agit comme ça, à mon avis. J'irai pas plus loin sur les conséquences que ça peut avoir, les conséquences pour la patiente, les conséquences financières pour... la sécurité sociale, je vous rappelle que la sécurité sociale est en grande difficulté et que dans certains pays, l'accès aux soins devient de plus en plus difficile. Donc, je pense qu'il faut protéger notre système social et participer au dépistage. Je fais partie de la protection de notre système social.
Est-ce que dans les personnes qui ne viennent pas, est-ce que c'est des tranches d'âge particulières ou est-ce que c'est... est-ce que vous avez détecté ça, qu'il y a des... À partir d'un certain âge, par exemple, il y en a qui ne répondraient plus ou est-ce que...
Non,
est-ce
alors,
qu'il y a quelque chose de précis là-dessus?
Non, alors ce qu'on a pu observer, ce n'est pas tellement lié à l'âge. C'est un peu lié. On a observé que souvent, les femmes, au bout d'un certain temps, quand elles avaient fait plusieurs mammos, ne revenaient pas. En se disant, bah, ça va, j'en ai fait 3 ou 4, on ne m'a jamais rien trouvé, j'arrête de m'embêter, c'est un peu... Un peu énervant, j'y vais pas, c'est pas très agréable, j'y retourne pas. Or, en fait, le fait d'avoir fait des mammographies ne protège pas du cancer, pas du tout. Hein. Et puis, vous avez un pic à 60 ans, un âge moyen à 60 ans, mais vous n'avez pas du tout une dégringolade après. C'est pas, hein. Donc, c'est pas parce que vous avez bien commencé à 50 ans ou même un peu avant que vous en avez fait déjà 3 ou 4 que c'est pas à la 5e qu'on va pas vous trouver quelque chose. Donc, ce n'est pas tellement parce que les femmes ont 60 ans, 65 ans qu'elles n'y vont plus. C'est plutôt parce que c'est plutôt des femmes qui en ont déjà fait plusieurs avant. Alors, effectivement, celles qui en ont fait plusieurs avant, bah, souvent, ce sont celles qui ont maintenant 50, 65 ou 70 ans. Mais voilà, ce n'est pas tellement vraiment l'âge qu'elles ont. C'est plus leur antériorité en termes de nombre de mammographies qui semble avoir un rôle. Alors après, on a des disparités aussi au sein du département, hein, géographique. Alors effectivement, je les ai pas mises, mais on peut faire des cartographies du département de la Vienne et voir que, par exemple, le nord du département participe mieux que le sud du département. On voit que Poitiers-Centre participe moins bien que les alentours et ou Châtellerault, des choses comme ça. Alors là, on a des explications, enfin, on a des débuts d'explications, on n'en est pas sûr non plus, mais forcément, on se dit que c'est un petit peu loué, un peu lié. On a l'offre de soins, on a la répartition des professionnels de santé qui sont là effectivement pour motiver leurs patientes, donc dans des régions très rurales où les médecins sont aussi déjà débordés, peu nombreux, etc. On ne peut pas leur demander en plus de passer un quart d'heure à essayer de convaincre leurs patientes, enfin, c'est difficile. Donc on se dit qu'effectivement ces populations qui vivent dans ces zones-là, elles sont peut-être un peu moins on leur donne un peu moins d'arguments pour aller se faire dépister. Et puis, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que M. Tourani disait, effectivement, dans le cadre du dépistage organisé, on observe 57% de participation. Ce qui est un petit peu rassurant quand même, c'est qu'on a aussi des données de l'assurance maladie qui nous disent qu'on a un nombre non négligeable, à peu près 15% de femmes, qui font dans cette tranche d'âge, qui font quand même des mammographies, qui font du dépistage, mais à titre individuel. Donc ça veut dire que quand même les femmes se sentent un peu concernées par leur santé, hein, elles se prennent en charge, mais effectivement elles n'ont pas pris conscience du bénéfice du dépistage organisé par rapport au dépistage individuel et qu'effectivement un programme national ne peut perdurer que si les gens adhèrent. On ne va pas continuer à dépenser de l'argent si les gens ne participent pas, alors qu'en fait ils n'y participent pas peut-être par manque de connaissances, et en fait ils risquent au final de se priver d'un programme qui pourrait leur apporter beaucoup de bénéfices, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience que c'était important. Alors effectivement, vous avez toujours les irréductibles qui ne veulent pas se faire dépister et qui ne veulent pas se faire prendre en charge. Mais bon, on a quand même connaissance d'un certain pourcentage de femmes qui se font suivre, mais pas dans le cadre du dépistage organisé. Et c'est aussi notre travail de sensibiliser les femmes sur l'intérêt du dépistage organisé par rapport au dépistage individuel.
Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, moi, je voudrais poser une question. On peut les poser aussi en sens inverse. Est-ce que vous avez des explications pourquoi des femmes ne souhaitent pas rentrer dans le dépistage organisé et souhaitent rester dans leur dépistage individuel ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ?
Au départ, quand on n'a pas l'information, quand on n'a pas l'information telle que je l'ai reçue ce soir, effectivement, on ne voit pas la différence entre un dépistage individuel, qu'on a l'habitude de faire, et le fait de rentrer dans le système. Bon, moi, j'ai adhéré au système, mais si vous voulez, la double lecture, je ne savais pas qu'elle existait.
Alors, il faut qu'on refasse nos courriers d'invitation parce que c'est noté sur les courriers d'invitation.
Alors, excusez-moi, mais c'est vrai que souvent, on ne prend pas la peine de lire les courriers. Et je crois qu'il y a, à mon avis, il y a pas mal de femmes qui ne doivent pas le faire. Moi, j'en ai discuté avec ma gynécologue, c'est comme ça.
Oui, c'est-à-dire que là, nous, on vous donne une information, mais on aimerait bien recueillir aussi votre sentiment pour améliorer.
Ah oui.
Notre système, parce que si on arrive à gratter 10% de plus, ça serait bien aussi.
Moi, je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans le même cas que moi, à mon avis.
Puis on sait bien que c'est faisable, parce que dans le département des Deux-Sèvres, vous avez plus de 66% de taux de participation. En Haute-Vienne, ils ont franchi la barre des 70%, donc c'est pas culturel sur le département non plus en entier. Il y a quand même des zones, pas très très nombreuses, mais il y a quand même des zones où les femmes participent beaucoup au dépistage organisé et participent plus au dépistage organisé qu'au dépistage individuel. Donc effectivement, c'est aussi à nous de faire le travail pour que vous puissiez lire nos courriers d'invitation du début jusqu'à la fin, que les informations essentielles ressortent. Donc c'est intéressant aussi de le savoir. Si effectivement, quand vous recevez nos invitations, vous ne lisez pas le texte, c'est important.
Donc vous pensez que la deuxième lecture, ça apporte quelque chose en plus par rapport à un dépistage individuel, de ce que vous voyez? Oui, non. Mais c'est un élément fort.
Avec les chiffres que vous avez donnés,
voilà, c'est un élément fort pour dire qu'il est peut-être préférable. Alors bon, on ne va pas non plus convaincre tout le monde. Après, chacun est libre de faire comme il veut.
Non, mais je pense quand même que ça peut amener d'autres femmes.
Moi, je veux bien dire, c'est exactement. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Moi, à vrai dire, je n'ai jamais participé à la campagne de dépistage. J'ai fait des mammographies par l'intermédiaire de mon gynécologue. Et il s'est avéré que j'avais un cancer, donc je suis à l'heure actuelle soignée pour ça. Mais c'est vrai qu'au travers de toutes les informations que vous avez données, je vais en parler. Je vais parler de cette...
C'est un peu le but.
Oui, je m'en doute. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas non plus lu. Hein. C'est exactement la même chose. Je n'avais pas lu et je n'avais pas vu cette deuxième... cette deuxième lecture. Et bon, par flemme un petit peu. Alors il y a aussi une chose que je dirais, vous parliez aussi de l'aspect culturel. En effet, c'est vrai aussi que les personnes qui nous font les mammographies font ça à la chaîne, et ils nous prennent un peu le sein comme si c'était le pis de la vache. Ils vous appuient ça vous, c'est vrai que moi c'est ce que j'ai ressenti. C'est pas particulièrement, ils y vont pas, y a un aspect pédagogique qui n'est pas là. Donc pour la femme qui déjà, je dirais du point de vue culturel, a la difficulté de faire cette démarche, d'aller faire une mammographie, si en plus elle est reçue de cette façon-là, ça n'aide pas trop. C'est pas excusable, mais non. Ça n'aide pas trop.
Ce que je voudrais dire, c'est que à la qualité de l'analyse de l'image, il faudrait améliorer la qualité de la réception de la personne. Mais j'en suis convaincu parce que ça fait au moins 5 ans que je l'entends.
Et
ça fait très longtemps, au tout début de DocVie, c'était un des éléments qui nous semblait être freinateur, c'est-à-dire que la personne, excusez-moi de le dire comme ça, la personne qui vient passer une mammographie, qui va payer sa mammographie, j'espère qu'il n'y a pas de radiologue dans la salle, est mieux reçue, on va dire, que quelqu'un qui vient le faire dans le cadre d'un dépistage. Je suis désolé, mais ça, je l'entends. Comment ?
Ah ben moi, c'était pas dans le cadre.
Alors, moi, j'interviens quand même parce que je suis médecin, mais je suis une femme. J'ai 55 ans, donc je fais des mammographies et par DocVie. Franchement, j'avais dû en faire avant, parce que, bon, pour des raisons X, mais j'ai pas eu ce sentiment.
Alors, est-ce que sans doute parce que vous êtes médecin.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est parce que j'étais médecin ? Mais les manipulatrices, elles ne savaient pas que j'étais médecin. Je crois que oui, c'est qu'il y a.
Je suis un peu surprise par ce commentaire-là parce que à voir comment ça se passe dans les cabinets, c'est exactement le même examen, c'est exactement le même nombre de clichés, c'est exactement les mêmes appareils. Donc.
Je pense que c'est pas ça que ressentent les femmes. C'est la chaleur humaine, c'est l'examen, c'est
Oui, mais le temps dédié sur leur planning n'est pas différent.
Je pense que c'est la relation médecin-malade qui est différente.
Mais on ne voit pas le médecin. Le médecin, on ne le voit qu'à la fin. Le médecin, si vous voulez, très souvent...
Je pense que le ressenti n'est pas le même. Non. J'ai cette impression, le ressenti n'est pas le même.
Moi, j'ai été médecin aussi. Je téléphone dans un premier cabinet de radiologie pour demander de faire une mammographie. Ils me disent, vous en avez déjà eu tout. Je dis, je viens par DocVie. Ah bon, on me dit, alors vous aurez un rendez-vous dans 2 mois. Alors je dis, non, pas du tout, je ne veux pas du tout ça. Donc je retéléphone à un autre cabinet qui me dit, vous venez dans 8 jours. Alors je ne sais pas pourquoi le premier cabinet, parce que... Voilà. Donc,
alors là, faut savoir effectivement pourquoi il y a eu un décalage. Est-ce que c'est une question globalement d'activité d'un cabinet ? Certains ont des délais plus importants que d'autres. Après, est-ce que certains cabinets ont des plages dédiées pour le dépistage et pour le diagnostic ? Du coup, ils font passer le diagnostic avant le dépistage et du coup, le dépistage vient après, donc les délais sont plus longs. Voilà, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, bon, à ma connaissance, j'avais pas notion au moment des prises de rendez-vous de délais différents pour les mammodocVie par rapport au dépistage individuel.
Moi, je trouve quand même que ça s'est beaucoup amélioré. Au départ, les femmes nous racontaient beaucoup de choses sur les prises de rendez-vous et sur la façon dont elles étaient prises en charge. Mais je crois quand même que depuis que DocVie a les appareils numérisés, au départ, quand ils pouvaient le faire avec les appareils non numérisés et d'autres qui avaient les appareils numérisés, on sentait une petite différence. Mais maintenant, moi, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup changé. Hein. L'accueil de DocVie a beaucoup changé. Et je trouve, enfin, je ne sais pas si peut-être je suis plus sensibilisée, mais moi, j'ai de plus en plus de patientes qui font des mammographies. Alors, peut-être parce que, je suis peut-être plus sensibilisée, j'en parle plus, j'ai vieilli, je suis moi-même dans le truc, ça joue aussi, hein, sûrement. Mais moi, je trouve quand même que globalement, je pense surtout que y a des femmes très sensibilisées, il y a des patientes qui vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup leur parler du dépistage pour qu'elles adhèrent. On leur donne le numéro de téléphone, elles-mêmes le demandent, ça se passe bien. Par contre, il y a toute une frange de population qui est très difficile à mobiliser pour n'importe quel dépistage et n'importe quelle prévention. Parce que nous, on n'a pas que le dépistage du cancer du sein, on a les vaccinations. Certains patients, c'est hyper facile. C'est même eux qui ont leur petit carnet, qui nous l'amènent. Mais il y en a d'autres, il faut leur réclamer 3-4 consultations d'affilée. Ils sont là à nous demander leurs médicaments pour le cholestérol. Et à côté de ça, si on leur parle de vaccination, on n'a pas d'écoute. Hein. Il ne faut pas croire que c'est que pour la mammographie. Hein. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été sensibilisés à la prévention, c'est-à-dire anticiper les problèmes.
À titre indicatif, quel est le retour pour le cancer du côlon ? chez Dogvie.
Alors, on a fini donc en 2010 la première campagne du côlon, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait commencé en 2008. Comme on invite les gens tous les deux ans, c'est au bout de deux ans qu'on a invité l'ensemble de la population. Et sur cette première campagne, on était à 37,5%. Alors là, les objectifs nationaux sont un peu plus modestes, ils tournent autour de 45-50%. Donc. Voilà. Et globalement, on était à peu près dans la moyenne nationale. Mais on a beaucoup plus de mal hein, quand même. Déjà, le test de dépistage est pas très, très agréable, on va dire. On a les hommes aussi qui sont concernés et les hommes sont plus difficiles à mobiliser que les femmes. Alors, est-ce que c'est parce que les femmes, elles ont déjà pris l'habitude avec la mammographie, du coup, le dépistage du cancer du côlon, elles y vont aussi alors que voilà, on observe, nous, sur ces 37%, qu'on a plus de femmes que d'hommes. Encore une fois, c'est relativement récent, hein, puisqu'on finit notre première campagne aussi dans le département. Donc, il faut voir. Mais cette année, les gens de 2008-2009 auraient dû refaire leur test, et visiblement, ils ne participent pas beaucoup. Donc, on a un problème de fidélisation de la population pour le cancer du côlon, sur lequel il faut qu'on travaille. Mais je voudrais juste revenir là sur les histoires de radiologues, etc. Sur ce que disait Madame Bruno Stefanini sur le numérique, l'analogique. Effectivement, il y a quelques années, en fait, quand le dépistage du cancer du sein a débuté, les appareils qui existaient, c'était des appareils dits analogiques. C'est le même principe que les appareils photo. Vous aviez l'argentique avant, vous avez le numérique maintenant. Pour les appareils pour les mammographies, c'était pareil. Vous aviez ce qu'on appelle les appareils analogiques. Et puis sont apparus sur le marché des appareils dits numériques. Le cahier des charges était très précis et ne prévoyait que les appareils analogiques. Du coup, quand les appareils numériques sont arrivés sur le marché, ils ont été achetés par des radiologues qui faisaient de la mammographie, alors que ça n'avait pas encore été homologué pour le dépistage organisé du cancer du sein. Du coup, pendant une période, on s'est retrouvé sur le territoire avec des cabinets de radiologie qui avaient à la fois des appareils analogiques et des appareils numériques dans leur cabinet. Et du coup, qui disaient, si vous voulez passer sur le nouvel appareil, c'est avec le numérique, mais à ce moment-là, c'est hors dépistage organisé, puisque il n'est pas homologué pour le dépistage organisé. Donc ça, maintenant, c'est complètement réglé, puisque l'appareil numérique est homologué. Et donc, depuis 2008, les mammographies de dépistage, dans le cadre du dépistage organisé, peuvent également être faites sur des appareils numériques. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période de transition pendant laquelle je pense qu'effectivement, on a eu des messages qui ont été un peu contre-productifs. Ou si vous vouliez le nouvel appareil, il fallait pas passer par le dépistage organisé, quoi. Donc c'était un peu dommage. Mais maintenant, en fait, pour vous donner une idée, il n'y a plus qu'un seul établissement dans le département de la Vienne qui est en analogique. Tout le monde est passé en numérique.
J'avais juste une question sur la limite d'âge. 74 ans, ça fait un peu bizarre. Pourquoi 74, pas 75? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Vous avez expliqué la raison statistique entre 50 et 69 ans, mais d'un autre côté, on a un accroissement de l'espérance de vie. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un allongement est-ce que l'incidence est nulle après 80 ans?
Je ne connais pas la réponse dans le cancer du sein. Par contre, je la connais dans le cancer de la prostate. Dans le cancer de la prostate, il faut surtout arrêter. Ce n'est même pas du dépistage qui existe. C'est des dosages de PSA, d'un marqueur tumoraux et éventuellement d'un geste clinique comme un toucher rectal. Il faut arrêter à 75 ans parce qu'on sait même que si on trouve un cancer de la prostate à 75 ans, la personne ne mourra pas de son cancer de la prostate. Quand on prend des centaines de personnes de plus de 80 ans de sexe masculin à qui on fait des autopsies, en gros, 80 à 90% ont un cancer de la prostate, mais ils sont morts d'autre chose. Donc à un moment, il faut que le dépistage apporte quelque chose, il faut qu'il apporte quelque chose en termes de survie, en termes de qualité de vie et de bénéfice. C'est-à-dire qu'à un moment, le bénéfice, il n'existe plus. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un problème de santé publique. On n'est pas à l'échelon individuel. Donc la tranche d'âge qui a été analysée s'est arrêtée à 75 ans parce que les critères qui ont été pris ont été les critères de survie aussi et de guérison. Ce n'est pas des critères de traitement et de diagnostic. On peut trouver peut-être des cancers à partir de 75 ans, mais si on les traite dans le cadre d'un dépistage ou si on les découvre alors qu'ils sont symptomatiques, s'il n'y a pas de bénéfice en termes de survie,
il n'y a pas intérêt à le dépister.
Voilà,
la problématique, elle est là, en fait.
Il y a quand même aussi une chose, il faut savoir qu'après 74 ans, les seins sont beaucoup plus lipomateux, beaucoup plus graisseux, c'est beaucoup plus facile à palper, et une palpation simple des seins, deux fois par an ou trois fois par an, suffit à découvrir des tumeurs. Hein. Moi, j'en ai découvert rien qu'à la palpation lors d'un examen systématique. Ce n'est pas parce qu'on arrête un dépistage organisé par mammographie qu'on ne surveille plus les seins. Après, on fait une palpation normale. Et même les femmes, elles, quand on les incite, elles se palpent les seins lors d'une toilette et elles peuvent trouver des choses qui ne sont pas très grosses. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on ne fait plus de mammographie organisée qu'on ne peut pas faire de dépistage individuel après 74 ans. Hein.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne laisse pas les gens sur le bas-côté de la route. Du tout. Mais ça n'apporte plus rien.
Voilà.
Quand ça n'apporte plus rien, il faut arrêter. Il faut faire autre chose.
C'est là, une simple une simple palpation suffit. Alors que ce n'est pas forcément le cas entre 50 ans et 74 ans.
Et comme Caroline vous l'a dit, avant, on a un problème de densité de seins.
Voilà.
Et donc, on a trop d'erreurs, de faux négatifs, on va dire. C'est-à-dire que des examens sont considérés comme normaux alors qu'ils sont pathologiques. Et donc, la rentabilité, mais je ne veux pas parler de rentabilité financière ou quoi que ce soit. La rentabilité, ça veut dire le nombre de cas dépistés par rapport au nombre de cas soumis devient tellement faible que ça n'a plus de sens d'être. Alors après, il y a les cas individuels, il y a un tas de choses, même au-dessus de 75 ans, il y a des gens chez qui on peut avoir aussi des difficultés, on fera une mammographie, mais on ne va pas dire,
oui.
Ça s'arrête du jour au lendemain, il ne faut pas croire les choses comme ça. On est là, on parle d'un problème de santé publique et d'une organisation de prise en charge dans le cadre de la santé publique, on n'est pas à l'échelon individuel.
Merci. On passe à la troisième intervention.
Je n'ai pas trop grand-chose à ajouter. Hein. Simplement, je voulais dire un petit peu le sentiment des médecins généralistes hein, pour dire que dans notre métier, c'est la responsabilité des médecins généralistes, c'est de faire de la prévention. Hein, c'est une de nos actions et elle doit être de plus en plus importante. On essaye de la mener à bien. Et c'était pour dire que DocVie nous a beaucoup aidés à faire de la prévention du cancer du sein. Ça nous a vraiment aidés parce que les femmes sont invitées sans que nous, on ait à prescrire un examen. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elles de prendre rendez-vous auprès d'un cabinet de radiologie. Et en plus, si elles ne répondent pas à cette invitation, elles sont rappelées systématiquement 6 mois après. Nous, on ne voit pas tous les patients dans nos cabinets tous les mois. Hein. Donc, c'est une très grande aide pour nous. Ensuite, je trouve que la communication est très bonne entre DocVie, les radiologues et les généralistes. Hein. C'est vraiment... C'est très bien organisé. Dès qu'une patiente a un problème, on en est averti. Elles sont prises rapidement en charge. Alors évidemment, il faut que la patiente donne le nom du médecin qu'elles ont. Parce que sinon, DocVie ne peut pas nous le dire. Ça, il faut penser à mettre le nom du médecin qui vous suit habituellement, soit votre gynécologue, soit le médecin généraliste. Et ensuite, ça permet quand même d'avoir une participation à une action de santé publique qui a un bon rapport qualité et prix, parce que malheureusement, on n'ose pas le dire, mais si on veut que nos enfants et nos petits-enfants soient soignés comme nous on l'a été, eh bien, il faut bien qu'on prenne en charge le coût de notre santé. Hein, si on n'a pas les moyens, on ne pourra pas rouler en Mercedes, mais on roulera en 2 chevaux, c'est ce que je dis souvent. Donc, il faut, et c'est un très bon moyen pour être bien dépisté avec un moindre coût. Donc, voilà. Ensuite, ben là, on avait mis qu'il y avait l'évolution des appareils, parce que je pense que ce que vous avez ressenti dans la prise de rendez-vous, c'est vrai qu'à un moment, ces appareils qui n'étaient pas les mêmes que les derniers appareils sortis, ça a créé un petit problème de rendez-vous au niveau du dépistage systématique. Ça, c'est clair. Que...
Vous vous souvenez à quelle année c'était?
Si c'est...
Voilà, c'est ça. Oui.
Parce... Ah oui, voilà, oui. Peut-être. Alors. Parce mais qu'effectivement, c'est... dans le département de la Vienne, en fait, ils ont été pilotes pour les appareils numériques. Ils ont testé les appareils numériques avant beaucoup d'autres départements. Et du coup, effectivement, quand ça a été, quand le cahier des charges a été changé en 2008, dans le département, ça faisait très longtemps qu'ils avaient des appareils numériques. Donc effectivement, vous êtes peut-être tombé à une période où ils avaient à la fois l'analogique et le numérique. Et donc pour passer dans DocVie, ils devaient vous mettre sur des plannings où le radiologue utilisait l'appareil analogique. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais bon, effectivement, si ça remonte à plusieurs années, c'est possible.
Oui, je pense que c'est... Voilà. Alors là, maintenant, je crois que nous, les femmes, nous en parlent pas trop maintenant. Parce que justement, je pense qu'il y a eu ce problème-là de... Bon, en plus, moi, je pense qu'il y a une très bonne adhésion. Je trouve que les patientes, j'ai peu de refus. Vraiment, je crois que j'en ai pas.
Non, quand je pense qu'effectivement, quand vous proposez, qu'on vous explique, faudrait être têtu pour pas avoir participé, parce que effectivement, il y a quand même que des avantages. Vous faites pas l'avance des frais, vous avez une deuxième lecture. Après la deuxième lecture, c'est DocVie qui vous renvoie gratuitement vos clichés à domicile. Vous n'avez pas besoin de vous redéplacer pour récupérer vos clichés chez le radiologue. On vous les envoie à domicile. On vous, comme disait le docteur Bruno Stefanini, si vous ne participez pas avec l'invitation, on envoie une relance 6 mois après pour essayer de vous remotiver. Si vous faites, dans le cadre du suivi, nous, on s'intéresse à votre suivi. Du coup, si vous ne faites pas les examens qui sont préconisés, on vous renvoie aussi un courrier en vous disant « Vous deviez faire une surveillance à 6 mois, est-ce que vous avez bien pensé à la faire ?» etc.
Puis même, vous nous écrivez, donc oui, on le sait, donc nous, on peut vous relancer. Donc, c'est quand même quelque chose de simple, mais de complet. Et la double lecture, ça, c'est très important. Moi, je sais que j'ai beaucoup incité des femmes à accepter DocVie, ne serait-ce que pour la double lecture, parce que moi, j'avais vu sur des publications que c'était jusqu'à plus 15% de rattrapage.
En fait, c'est entre 5 et 15%. Nous, voilà. Dans la Vienne, on est entre à 7-8%, ça dépend des années.
Enfin, 15%, voilà. C'est quand même pas négligeable de rattrapage, hein. Alors effectivement, on a toujours ces patients-là, ces patientes qui ne veulent pas faire de prévention et à qui on est obligé d'expliquer plus longuement. Mais bon, je pense que plus on sera nombreuses à aller vers DocVie, et plus il y en aura qui iront, et plus ça sera connu, et mieux ce sera. Voilà, alors les freins les plus fréquents, on vous les a notés, c'est je manque de temps, mais ça n'a pas de... C'est pas un argument. Hein. J'ai peur de savoir, mais ça c'est la politique de l'autruche, hein, c'est pour tout. Puis alors après, c'est ceux qui nous rouspètent de ne pas avoir trouvé avant. Faire une mammographie, c'est désagréable, ça c'est sûr, mais ça ne dure pas quand même longtemps. Et moi, je trouve que depuis le numérique, c'est moins désagréable. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais moi, je trouve que c'est moins désagréable. Et puis après, ben, il faut leur expliquer qu'il faut se sentir concerné par des programmes comme ça, hein, que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas de symptômes qu'on ne doit pas se faire soigner.
J'irais même, c'est justement parce qu'on
ne sent pas.
Voilà. C'est justement, on ne sent rien qu'il faut aller au dépistage.
La preuve, c'est que beaucoup de gens nous demandent des prises de sang alors qu'ils n'ont pas forcément de ressenti, hein, particulier. Voilà, alors après, évidemment, j'habite trop loin des cabinets de radiologie. Moi, ce n'est pas quelque chose qu'on me dit parce que j'habite à Poitiers. Enfin, je suis installée à Poitiers, pardon. Je ne suis plus concernée à mon âge. Bon, ça, c'est plus rare. Alors, suivi par le gynécologue, oui, mais je pense que maintenant, les gynécologues incitent bien à DocVie.
Mais parfois, c'est vrai que quand ils font des prescriptions, ils oublient de préciser mammographie dans le cadre du dépistage organisé. Oui. Et du coup, on ne va pas revenir sur les radiologues et sur leur activité, mais effectivement, ça va assez vite. Et si vous, avec certains radiologues, vous n'aurez aucun problème. Ils vous proposeront de participer au dépistage organisé, même si ce n'est pas marqué sur l'ordonnance. Et puis d'autres, ils ne prendront pas le temps de vous expliquer et de se dire il va falloir que je passe 5 à 10 minutes à convaincre la patiente. Et donc, si ce n'est pas vous qui le demandez, ils ne feront pas l'effort de vous inclure. Du coup, effectivement, si vous avez une prescription d'un gynécologue, vous pouvez très bien passer dans DocVisa. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, j'ai oublié. C'est-à-dire que pour bénéficier de cette mammographie de dépistage dans le cadre du dépistage organisé, vous n'êtes pas obligé de vous présenter au cabinet de radiologie avec notre bon de prise en charge. On a signé un accord avec les radiologues du département pour que toute femme qui se présente à leur cabinet pour une mammographie puisse participer au dépistage organisé si elle le souhaite à la dernière minute. Donc, il faut simplement que le radiologue vérifie avec vous qu'effectivement, vous avez bien entre 50 et 74 ans, que vous êtes éligible au programme. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, il peut très bien vous inclure, même si vous n'avez pas votre bon de prise en charge. Mais le mieux, c'est qu'effectivement, vous pensiez à le lui dire, parce qu'on a quelques radiologues qui oublient, donc qui ne prennent pas le temps de basculer les femmes du dépistage individuel au dépistage organisé.
C'est oui. Tellement les radiologues, pas plutôt le secrétariat, parce qu'on a le radiologue, on le voit après.
Oui, alors, en fait...
En général, c'est quand on est au secrétariat qu'on...
Oui. Alors, effectivement, donc nous, on va essayer de mener enfin, aussi...
Moi, je demande aux femmes, je dis qu'elles vous téléphonent et de se faire renvoyer une convocation, oui. De s'en faire envoyer une, c'est quand même assez simple.
Ah oui, non, on peut faire... Nous, on peut vous ressortir des invitations aussi. On réédicte les courriers qu'on vous a donnés, qu'on vous a envoyés. Et puis, comme ça, vous y allez avec votre prise en charge. Mais si vous n'avez pas fait cette démarche-là et que vous vous présentez directement avec la prescription de votre médecin, vous pouvez tout à fait participer quand même à la campagne de dépistage.
Voilà, mais c'est une bonne chose.
Alors, si vous souhaitez en savoir plus, quelques photos de la marche rose que nous avons organisée samedi dernier, qui va devenir, je pense, un rendez-vous annuel. C'était la deuxième année que l'on faisait... que l'on faisait cette marche. Donc, on a fait une boucle... on a proposé comme ça aux femmes de participer, aux femmes et aux hommes d'ailleurs, à toutes les personnes qui se sentaient concernées par le dépistage, de participer à une marche rose dans les rues de Poitiers samedi après-midi. Donc voici quelques photos, vous avez peut-être vu aussi un article dans le journal. Donc l'année prochaine, si vous souhaitez participer, probablement qu'on renouvellera l'opération. Et si on la renouvelle, on la fera sûrement le premier week-end d'octobre, comme l'année dernière et donc cette année. Donc n'hésitez pas à participer, c'est très festif, c'est très sympa. Et en plus, pour l'instant, chaque année, on a eu un magnifique soleil. Et sinon, la diapo suivante, voilà. Sinon, vous nous appelez donc au 05 49 62 75 58. Donc ça, c'est le secrétariat de DocVie. Et surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin généraliste ou gynécologue et pour lui dire que vous avez envie de participer au dépistage organisé parce qu'encore une fois, la deuxième lecture n'est proposé que dans le cadre du dépistage organisé. Ce sont exactement les mêmes radiologues, ce sont exactement les mêmes appareils. Donc il n'y a aucune différence, ce sont exactement les mêmes clichés qui sont faits, ils sont interprétés avec le même professionnalisme par les radiologues. Effectivement, la tendance dans les cabinets de radiologie n'est pas à l'accueil personnalisé et attentionné, ça c'est sûr. Mais moi, à ma connaissance, il n'y a pas de différence d'accueil. Alors après, je ne connais pas tout forcément, je ne vais pas dans les cabinets tous les jours, mais bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement le même examen, le même radiologue, le même appareil, et vous bénéficiez en plus de la deuxième lecture. Donc, vraiment, si vous avez entre 50 et 74 ans, vous avez vraiment tout intérêt à participer au dépistage organisé et à ne pas vous en priver. Voilà. Donc, parlez-en aux femmes que vous aimez, c'est le... Voilà. Parlez-en aux femmes que vous aimez, c'est le slogan qui a été retenu cette année par l'Institut national du cancer, effectivement, en considérant que le dépistage ne concerne pas que les femmes entre 50 et 74 ans, parce que quand une femme entre 50 et 74 ans, ou quel que soit son âge d'ailleurs, est atteinte d'un cancer du sein, elle n'est pas la seule concernée par la maladie. Et que du coup, les hommes aussi doivent motiver leurs femmes, les filles doivent motiver leur mère, leur tante, leur sœur. Voilà. Merci. Moi, j'en ai une petite aussi, parce que du coup, effectivement, on va essayer de s'améliorer. Donc, est-ce que vous pensez que des posters ou des dépliants, des choses comme ça, enfin, accrochés sur le mur, en gros, des cabinets de radiologie ou je ne sais pas, dans les cabinets médicaux, si vous en avez déjà. Mais vous avez des affiches comme ça, en fait, sur le dépistage. Mais est-ce que des affiches qui vous rappellent vraiment les étapes du dépistage organisé et puis, par exemple, le pourcentage de cancers détectés en deuxième lecture, etc. Oui, ça accrocherait plus. Est-ce que vous regardez ce qu'il y a au mur dans les salles d'attente ?
Les chiffres.
Oui. Non, parce que comme vous disiez, effectivement, c'est pas. Nous, on travaille souvent auprès des radiologues, mais effectivement, on, de plus en plus, moi, je me dis, il faut déjà qu'on arrive à convaincre les secrétaires, qu'elles fassent déjà un premier travail auprès des femmes. Et puis, dans la salle d'attente, s'il peut y avoir autre chose que contacter DocVie, mais effectivement, avec peut-être des chiffres un peu plus marquants ou percutants, ça pourrait avoir un impact. Pour qu'ils la reconnaissent.
Ça ferait plus qu'il à certaines femmes.
D'accord. Donc faut qu'on la change pour mettre un peu plus en avant déjà la deuxième lecture avec des warnings. D'accord.
Bon, merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos interventions, pour les informations que vous avez apportées. Et j'apprécie aussi le slogan en tant qu'homme. Merci beaucoup pour votre présence et nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine conférence. Donc vous en avez deux autres qui vont arriver. Vous pourriez rappeler les dates. Elles sont, je crois, sur les papiers que vous avez distribués. Je vous les rappelle rapidement.
Il faut donner le micro à la personne qui est là-bas au fond derrière. Là.
Ah ben d'accord, allez, en avant.
Qui connaît bien.
Faites un peu de pub.
Bonsoir. Donc, au pôle de cancérologie, au pôle régional de cancérologie, nous vous proposons d'autres réunions d'information. Jeudi prochain, donc le 13 octobre à 18h, la chirurgie du cancer du sein, traitement chirurgical et reconstruction mammaire, donc avec un chirurgien gynécologue et un chirurgien plasticien. Et ensuite, une réunion le jeudi 20 octobre à 16h sur l'hormonothérapie dans le cadre du cancer du sein. D'autre part, avec Corinne Autexier, donc socio-esthéticienne au pôle régional de cancérologie, nous avons aussi prévu plusieurs ateliers intitulés « Un après-midi entre femmes » destinés aux patientes prises en charge au sein du pôle régional de cancérologie afin de donner des moyens, trucs et astuces pour passer dans la maladie en le vivant le moins mal possible. Voilà, merci.
Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous et toutes.